Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h en temps universel, 17h ici à Paris.
Le journal en français facile.
Victor Moria.
Et on commence avec les titres. À la une, ils n'étaient pas retournés chez eux depuis des mois. Les habitants de la banlieue sud de Beyrouth rentrent peu à peu sur leurs terres. Ce fief du Hezbollah libanais était bombardé sans relâche par l'armée israélienne. Mais l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ce matin ouvre la voie à un retour de la paix. Une plainte pour complicité de génocide déposée devant la justice française. Elle concerne notamment les blocages de l'aide humanitaire destinée aux populations de Gaza par des franco-israéliens. C'est reparti pour 5 ans. La nouvelle Commission européenne a été validée par le Parlement de Strasbourg. Malgré une nouvelle équipe contestée, Ursula von der Leyen sera bien à la tête de l'exécutif européen. Enfin, nous terminerons ce journal en musique avec la comédie musicale la plus vue de tous les temps, Les Misérables, inspirée du livre de Victor Hugo. Mais une triste nouvelle pour commencer cette édition. La rédaction de RFI a appris hier le décès de Marine Vlahovic. Elle avait 39 ans. Marine était notre correspondante dans les territoires palestiniens occupés entre 2016 et 2019. Elle avait ensuite publié notamment une série de podcasts sur Arte Radio, Carnet de correspondante, 6 épisodes retraçant le travail et la vie quotidienne de journalistes sur le terrain. L'ensemble de la rédaction de RFI présente ses condoléances à la famille de Marine Vlahovic. Des dizaines de milliers de personnes rentrent enfin chez elles au Liban. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 4 heures ce matin. Soulagement pour la population civile en première ligne depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Depuis début octobre, l'armée israélienne bombarde sans relâche les positions du mouvement chiite libanais, tuant beaucoup de ses membres, mais aussi et surtout des civils. 3000 morts et 1 million de déplacés en 2 mois. Depuis ce matin, les habitants de la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, retournent chez eux. Dans la capitale libanaise, on retrouve leur Stéphane.
Des habitants déplacés par le conflit reviennent chez eux depuis ce matin. Des files de voitures chargées de matelas, de valises. Certains avaient déjà tenté des retours épisodiques, comme ce jeune père de famille, mais il était reparti à cause des bombardements. Cette fois, il espère que c'est la bonne. C'est une matinée sous la pluie où on constate l'étendue des dégâts. Environ 300 immeubles ont été totalement détruits, selon les estimations du CNRS libanais. Mais la vie recommence, des magasins ont rouvert. Par intermittence, il y a des saccades de tirs de joie, tirs politiques. Des jeunes du Hezbollah sont déployés sur le terrain. Des sonos diffusent des airs de victoire. Des gens arborent le drapeau jaune du parti. Ils attribuent au combat mené dans le sud par le mouvement chiite, l'obtention d'une trêve, une trêve que tout le monde sait pourtant fragile. Il y a dans la banlieue sud une odeur de cramé, celle dégagée par les frappes israéliennes qui ont eu lieu cette nuit avant la trêve. À des carrefours près de la banlieue sud, l'armée libanaise distribue des tracts qui mettent en garde sur la présence d'engins non explosés.
Laure Stéphan, correspondante de Radio France Internationale dans la capitale libanaise, Beyrouth. La communauté internationale se félicite de cet accord trouvé entre Israël et le Hezbollah. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, estime que l'accord constitue une étape fondamentale vers la stabilité régionale. Le président américain, Joe Biden, a évoqué une bonne nouvelle, estimant que l'accord permettait un nouveau départ pour le Liban. Moscou, elle aussi, salue la décision et d'y espérer que le cessez-le-feu fonctionne réellement. Enfin, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a prévenu que la durée du cessez-le-feu dépendrait de ce qui se passera au Liban. « Nous maintenons une totale liberté d'action militaire », a-t-il ajouté. « Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons ». Fin de citation. Des franco-israéliens visés par une plainte devant la justice française pour complicité de génocide à Gaza. La plainte déposée contre X vise des actions de blocage de l'aide humanitaire, notamment les camions censés apporter des vivres et du matériel médical aux habitants de Gaza. La plainte a été déposée par deux avocates, Maître Marion Lafouge et Damia Taharawi. Écoutez cette dernière au micro d'Olivier Sherman.
Une complicité de génocide, c'est des individus organisés sous forme de collectif qui se mettent physiquement debout sur la route. En fait, ils empêchent concrètement l'accès à l'aide humanitaire et donc l'accès à la nourriture, l'accès aux médicaments, l'accès aux anesthésiens, l'accès aux soins et à tous les éléments qui permettent à la population de survivre. Autre forme de comportement, c'est l'organisation de ces blocages. Donc non seulement ces personnes et ces collectifs bloquent, mais en plus ils appellent en langue française, à les rejoindre pour bloquer. Ils organisent des covoiturages, des convois, pour empêcher en fait l'accès de la population civile à l'aide humanitaire. On a simplement enquêté en suivant ce qu'ils diffusaient sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, et en retraçant tout ça, on a pu reconstituer les éléments de preuve qui nous permettaient d'identifier ce comportement, tout simplement.
Maître Damia Taharawi au micro d'Olivier Sherman. Le rapport fait près de 900 pages et il est accablant pour Jair Bolsonaro. Selon la police brésilienne, l'ancien président d'extrême droite a non seulement activement participé à un projet de coup d'État pour se maintenir au pouvoir, mais il avait aussi connaissance d'un plan d'assassinat de son successeur Lula. Selon les enquêteurs, le projet aurait échoué car les principaux commandants de l'armée brésilienne auraient refusé d'y participer. Le Parlement européen approuve la nouvelle commission. Il s'agit de l'organe exécutif de l'Union européenne. La commission sera à nouveau dirigée par Ursula von der Leyen. Les députés réunis à Strasbourg, en France, ont accordé 370 voix pour la nouvelle équipe, 100 voix de moins qu'il y a 5 ans. Une courte majorité, mais une majorité suffisante pour une commission qui rentrera en fonction le 1er décembre. À Strasbourg, notre envoyé spécial, Daniel Valo.
We now move to the vote on the election of the commission and it is adopted. Congratulations.
Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a beau féliciter Ursula von der Leyen, la nouvelle commission est investie avec moins de 400 voix du jamais vu dans l'histoire du Parlement de Strasbourg. Un résultat mitigé, mais l'essentiel est ailleurs pour l'eurodéputé Renew Stéphanie Yvon-Courtin, qui a voté pour la nouvelle commission.
Il est vraiment temps maintenant d'agir, et c'est pour ça que cet accord de coalition était nécessaire, et c'était pour ça que c'était important aussi qu'on puisse valider ces commissaires. La maison brûle.
C'est au nom de la stabilité et de l'urgence face aux défis qui se posent à l'Europe que les groupes centristes et socialistes ont finalement accepté de donner leur feu vert. Et cela malgré le poste de vice-président accordé à Raffaele Fitto, membre des Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Une faute politique majeure aux yeux de l'insoumise Manon Aubry.
C'est le fruit de petits arrangements entre amis et d'une nouvelle alliance entre la droite et l'extrême droite qui est quand même inédit dans notre histoire. Aujourd'hui, c'est un jour triste.
À gauche du Parlement européen, on s'inquiète de cette brèche dans le cordon sanitaire et l'on accuse les conservateurs du PPE de vouloir pactiser avec l'extrême droite sur certains sujets et en particulier sur les questions environnementales. Daniel Valo, Strasbourg, RFI.
Les députés français ont appuyé la volonté du gouvernement de s'opposer au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. L'accord nommé Mercosur est actuellement en discussion au niveau européen, mais plusieurs pays, dont la France et la Pologne, s'y opposent car ils considèrent que leurs agriculteurs subiraient une concurrence déloyale. En France, toujours, au procès des viols de Mazan, la parole est à la défense cet après-midi. C'est l'avocate de Dominique Pellicot qui prendra la parole en premier. Puis, ce sera au tour des représentants de ces 50 co-accusés. Dominique Pellicot est poursuivi pour viol sur son ex-épouse qu'il droguait pour la violer et la livrer à des inconnus recrutés sur Internet. Ils risquent tous jusqu'à 20 ans de prison. On termine ce journal en français facile avec un mot de sport et la Ligue des Champions, la cinquième journée de cette compétition européenne de football qui continue ce soir. Liverpool reçoit le Real Madrid, c'est à 20h en temps universel. Autre match à cette même heure, Monaco reçoit Benfica et le Dynamo Zagreb reçoit le Borussia Dortmund. Merci d'avoir été avec nous sur Radio France Internationale.